J'ai une très bonne question pour vous. Comment est-ce qu'on peut concrétiser la foi, l'amour et l'espérance dans notre vie? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On entend souvent parler de la foi, de l'espérance et de l'amour, mais aujourd'hui, je crois qu'on va tous mieux comprendre le sens de ces vertus, alors que la parole de Dieu va répondre aux questions que voici. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul remerciait Dieu dans ses prières pour les Thessaloniciens? Est-ce que l'homme porte l'image de la Trinité? Comment est-ce qu'on peut concrétiser la foi, l'amour et l'espérance dans notre vie? Comment est-ce que la foi se voit dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que la Bible entend par le travail de l'amour? Comment est-ce qu'on doit exprimer notre amour envers Dieu? Qu'est-ce que l'espérance peut faire dans la vie d'une personne? Restez là, nos réponses s'en viennent. La Bible va nous répondre par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons au Seigneur qu'il dispose nos cœurs à bien recevoir ce bon enseignement qu'il va nous donner. Prions. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. Aide-nous à faire un arrêt, à ne pas penser à quoi que ce soit d'autre que ce que tu vas nous enseigner dans les minutes à suivre. On veut vraiment être concentré sur toi, Seigneur, et on veut te dire aussi combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien tu es digne d'honneur et de louange. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous avons vu que Paul a écrit cette lettre à l'église de Thessalonique afin de répondre à certaines de leurs questions doctrinales et afin d'encourager la jeune église dans sa foi. Le thème de l'épître est le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église. Le but de cette épître comprend trois volets. Premièrement, affermir les jeunes convertis dans les fondements de la foi chrétienne. Deuxièmement, les encourager à persévérer dans une marche chrétienne exemplaire. Et troisièmement, les rassurer au sujet du retour de Jésus-Christ. Nous vous avons exhorté à ne pas mettre votre pasteur sur un piédestal. En fait, les vêtements d'un pasteur devraient être imprégnés de l'odeur de la bergerie. Deux situations sont malsaines dans une église. Premièrement, un pasteur qui travaille pour sa gloire personnelle. Deuxièmement, un membre ou un adhérent qui se prend pour une autorité en matière biblique et qui dérive doctrinalement sur un dada. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude au deuxième verset du premier chapitre de la lettre de Paul. Chers amis, débutons la lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Paul, un exemple d'homme de prière. L'apôtre Paul priait pour toutes les églises qu'il a fondées. La liste de prières de Paul était longue et ce serait une étude intéressante que d'examiner toutes les personnes qui s'y trouvaient. Paul a prié pour de nombreuses églises, de nombreux individus et de nombreux groupes d'individus. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. L'apôtre Paul avait de nombreuses raisons de louer Dieu pour l'église de Thessalonique. Et la plus importante était le fait qu'elle était une église exemplaire, une église modèle. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous rappelons sans cesse, premièrement, l'œuvre de votre foi. Deuxièmement, le travail de votre amour. Et troisièmement, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset est important parce qu'il est lourd de signification. Paul associe les trois vertus chrétiennes, la foi, l'amour et l'espérance. Il l'a fait aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'univers dans lequel nous vivons porte l'image de la Trinité. J. Vernon McGee prenait un repas avec un scientifique qui a travaillé au développement du bouclier thermique des engins spatiaux. Ce scientifique lui a dit « As-tu déjà remarqué que le nombre 3 revient souvent dans l'univers qui porte l'image de l'éternité ?»« Non. Que veux-tu dire par là ?»« Nous vivons dans un univers physique formé avec le temps, l'espace et la matière. Peux-tu penser à un quatrième volet ?» Le temps est séparé en 3, le passé, le présent et l'avenir. Peux-tu penser à une quatrième possibilité? L'espace a 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Les scientifiques parlent d'une quatrième dimension, mais elle ne se trouve pas dans notre univers matériel. L'univers dans lequel nous vivons porte l'image de la Trinité. Il est intéressant de noter que la Bible porte aussi cette marque. Notez ce que Paul dit au sujet de l'être humain. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'homme aussi porte l'image de la Trinité. Un résumé d'une biographie de vie chrétienne. Dans le verset 3, l'apôtre Paul mentionne les 3 vertus de la vie chrétienne. L'œuvre de la foi est une action passée. Le travail de l'amour est une action présente. La fermeté de l'espérance se manifestera dans l'avenir. Ceci résume la biographie d'un chrétien ainsi que le caractère constant, permanent et éternel de la vie chrétienne. Comment pouvons-nous concrétiser les vertus chrétiennes? La foi, l'amour et l'espérance sont des noms abstraits. Ils semblent être des idéaux très élevés alors que nous sommes ici-bas sur Terre. Comment pouvons-nous passer de l'abstrait et du théorique à la réalité dans notre marche quotidienne? Comment pouvons-nous concrétiser ces qualités abstraites? Comment ces 3 vertus peuvent-elles se manifester dans notre vie? Paul tire maintenant ces 3 vertus du monde abstrait et les place dans nos souliers afin qu'elles se reflètent dans notre marche quotidienne, afin que les gens de notre communauté et de notre cercle social les voient. Notez comment Paul accomplit cela, en s'inspirant de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance. L'apôtre Paul cite les 3 étapes de la vie des croyants de Thessalonique. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, ce qui correspond à l'œuvre de la foi, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà le travail de l'amour, et finalement, pour attendre des cieux son Fils, qui est la fermeté de l'espérance. La véritable foi se manifeste dans notre comportement. L'expression « l'œuvre de la foi » peut sembler étrange, car dans l'Épître aux Éphésiens, Paul enseigne « car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Pourtant, dans notre verset, Paul utilise l'expression « l'œuvre de la foi ». Nous trouvons l'explication dans l'épître de Jacques. « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques chapitre 2, verset 18. Paul a aussi dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Galates chapitre 5, verset 6. C'est cela l'œuvre de la foi. Une véritable foi se voit dans notre comportement, dans notre manière d'agir. Jacques et Paul ne se contredisent certainement pas comme le pensent certains érudits. Marcher par la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. La foi est la réaction de l'homme en entendant la parole de Dieu. Lorsqu'une personne réagit à la parole en lui obéissant, elle marche par la foi. Paul l'enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Jésus enseignait aussi cette vérité. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, les versets 28 et 29. Jésus n'a pas dit de faire des bonnes œuvres afin de pouvoir venir à Dieu et être approuvé de lui, mais il a dit de venir à Dieu en lui faisant confiance, c'est-à-dire par la foi. Une foi vivante affecte notre vie et ainsi se manifeste. Une foi se révèle dans la vie de celui qui croit. Luc nous relate un bel exemple de la foi agissante dans son Évangile, chapitre 5, les versets 4 et 5. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ceci est un fait, c'est la vérité à l'état brut. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Nous connaissons la mer et nous savons que c'est inutile d'y retourner. Cependant, observez ce que Simon-Pierre a dit ensuite. « Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre a dit qu'il retournerait à la pêche. « Mes amis, c'est cela l'œuvre de la foi. Mes amis, accomplir l'œuvre de la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Et quelle est l'œuvre de Dieu? C'est croire en Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui nous a donné cette définition. » Nous pouvons la lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 29. Soyez attentifs, écoutez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le monde verra votre foi lorsque vous obéirez à la parole de Dieu. C'est cela l'œuvre de la foi. La foi est un élément de la communication entre Dieu et l'homme. Caïn et Abel illustrent aussi cette vérité. Quel était le problème de Caïn? Il était un pécheur par nature, mais il l'était aussi par choix personnel et par ses actions. La Bible dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. » Hébreux chapitre 11, verset 4. Abel n'a pas été déclaré juste parce qu'il était un bon garçon à l'école du dimanche. Quoiqu'il a été un pécheur comme Caïn, Abel a réagi à la parole de Dieu en le croyant. Il a été sauvé parce qu'il a cru Dieu. Abel a démontré sa foi en offrant à Dieu un sacrifice approprié. La foi est un élément de la communication entre Dieu et l'homme. Dieu communique sa vérité et sa parole à notre cœur et nous réagissons en conséquence. C'est cela se convertir. Se convertir, c'est croire Dieu. Les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu en se détournant des idoles. L'apôtre Paul ne s'est pas rendu à Thessalonique pour dire à la population « Vous ne devez pas adorer les idoles, c'est une chose terrible à faire ». Paul n'a pas parlé ainsi. C'est Christ, Christ crucifié qu'il a prêché à Thessalonique. Ces gens ne voyaient rien de mal dans l'idolâtrie. Cependant, lorsqu'ils ont entendu Paul parler de Jésus-Christ, ils ont cru Dieu et ils sont venus vers lui. En se tournant vers Dieu, ils ont viré le dos aux idoles. Des personnes disent parfois à un pasteur, « Tu m'as converti ». En fait, c'est impossible. Un pasteur ou un chrétien peut être un instrument dans les mains de Dieu, mais il ne peut pas sauver qui que ce soit. Le pasteur présente Christ crucifié, proclame la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur des auditeurs. C'est merveilleux, mes amis. Qu'est-ce que le travail de l'amour? L'apôtre Paul s'est rappelé non seulement de l'œuvre de la foi des Thessaloniciens, mais aussi leur travail de l'amour. Qu'est-ce que le travail de l'amour? Dieu ne nous sauve pas par l'amour, mais par la grâce qui est l'amour en action. Le travail et l'amour ne semblent pas former un couple qui marche main dans la main. Cependant, l'amour va nous faire agir. Lorsque l'amour nous motive, nous ne trouvons pas nos œuvres pénibles. Une petite fille portait un gros bébé. Un passant lui dit, « Ce bébé n'est-il pas trop lourd ?» La petite fille lui dit, « Oh non, c'est mon frère. » Lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un que nous aimons, ce n'est pas un fardeau. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 15. Si nous n'aimons pas le Seigneur Jésus, garder ses commandements et le servir est un fardeau lourd. Cela ne vaut même pas la peine d'essayer de le faire. Un jour, le pasteur, J. Vernon McGee, le prédicateur, dont nous traduisons et adaptons le matériel, se rendit à l'église avec sa fille. On lui avait confié certaines tâches à l'église. Ils se sont retrouvés dans un bouchon de circulation sur l'autoroute. McGee dit à sa fille, « Regarde toutes ces personnes qui se rendent au travail ce matin. Remarque que personne ne semble heureux. Tous sont tendus ou inquiets. 99% se rendent à un travail qu'ils détestent. C'est merveilleux lorsque nous faisons un travail que nous aimons pour une personne que nous aimons. C'est un travail de l'amour. Dieu ne veut pas d'un service fait à contre-cœur. Si servir le Seigneur est un fardeau très lourd pour vous aujourd'hui, je pense que le Seigneur vous dirait « Laisse faire, mon ami, ne t'en occupe pas. Il ne veut pas que nous travaillions misérablement. Nous devons l'aimer. Alors, tout ce que nous faisons pour lui devient un travail de l'amour. Ceci devrait être caractéristique d'un croyant. Un jour, Dwight L. Moody est rentré chez lui. Sa famille lui a dit, « Annule ta prochaine réunion, tu as l'air fatigué et nous savons que tu l'es. » Il a répondu, « Je suis fatigué d'avoir beaucoup travaillé à l'œuvre de Dieu, mais je ne suis pas fatigué du travail pour l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux d'être fatigué parce que l'on a travaillé pour Dieu, mais de toujours aimer travailler pour lui. » L'amour de Dieu s'exprime dans l'obéissance. Je suis fatigué d'entendre beaucoup de personnes affirmer qu'elles sont un chrétien ou une chrétienne consacrée. Si vous tenez à faire une telle déclaration, démontrez sa véracité. Prouvez-la par votre amour, et l'amour se manifeste par l'obéissance. L'amour de Dieu s'exprime dans l'obéissance. Qu'est-ce que la fermeté de l'espérance? Finalement, l'apôtre Paul loue les Thessaloniciens pour la fermeté de leur espérance. Après s'être convertis à Dieu et détournés des idoles pour servir le vrai Dieu vivant, ils ont attendu le retour de son Fils. C'est cela la fermeté de leur espérance. Tous vivent avec une espérance pour l'avenir. Cet espoir, quel qu'il soit, va les soutenir. De nombreuses personnes ont reconnu cela au cours des siècles. Martin Luther a dit, « Tout ce qui est fait dans le monde est fait à cause de l'espoir. » Sophocle, un poète tragique grec de l'Antiquité, a dit, « C'est l'espoir qui soutient la plus grande partie de l'humanité. » O.S. Marden, un auteur, a dit, « Il n'y a pas de meilleur médecin que l'espoir, pas de meilleure motivation, pas de tonique plus efficace que l'attente de jours meilleurs dans l'avenir. » Alexander Poppy a écrit, « L'espoir, une source éternelle dans le sein de l'être humain. » Thomas Jefferson, homme d'État, a dit, « Je dirige ma barque avec l'espoir en avant et la crainte en arrière. » Carlyle, un philosophe écossais, a dit, « L'homme est, en fait, érigé sur l'espoir qui est sa seule possession. Son monde en est catégoriquement un d'espoir. » Quel est votre espoir aujourd'hui? Servir le Dieu vivant et vrai est une vie glorieuse, ainsi qu'attendre le retour de son Fils des cieux. C'est un espoir béni. Une grande multitude se confie en l'homme, croyant que l'homme peut résoudre ses problèmes et apporter la paix ainsi que la prospérité au monde. Cependant, l'homme est incapable de faire cela. Si vous placez votre espoir dans ce monde, vous courez après une bulle de savon qui éclatera lorsque vous la toucherez. Dieu a chassé l'homme du paradis parce qu'il est devenu un être pécheur, et depuis, il essaie de reconstruire un autre paradis. Pendant des années, l'Église a cru qu'elle construisait le royaume de Dieu sur terre, mais ce n'était pas le cas. Dieu ne laisse pas l'homme vivre éternellement sur la terre à cause du péché, et nous pouvons le remercier pour cela. Chaque époque a connu des crises majeures, et les gens pensaient pouvoir s'en sortir. Frédéric le Grand, l'empereur prussien, a dit « Je vis dans un temps de turbulence. Mon espoir est en Dieu. » Quel est votre espoir aujourd'hui? Placez-vous vos espoirs dans un parti politique ou dans une organisation humaine? Puisse Dieu avoir pitié de quiconque place ses espoirs dans quelque chose d'aussi fragile que l'homme. Aucun homme, aucun parti ou aucun groupe ne peut résoudre les problèmes de ce monde. Le sceptre de l'univers est tenu par une personne aux mains percées, et il agira en son temps. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Citation de Romains chapitre 8, verset 28. Les desseins de Dieu sont saints et éternels. L'apôtre Paul a rapproché la foi, l'amour et l'espérance, les trois temps de la marche chrétienne. L'œuvre de la foi, qui jette un regard arrière sur la croix et qui produit des bonnes œuvres dans notre vie. Le travail de l'amour, qui est le fondement et la motivation pour servir Dieu présentement, et la fermeté de l'espérance qui se tourne vers l'avenir. Nous avons un merveilleux trio de vertus chrétiennes, une image de la Trinité. Ces trois éléments devraient résumer la vie de tous les croyants. C'était le cas parmi les croyants de Thessalonique, et j'espère que c'est le cas des croyants de votre Église. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Citation d'Éphésiens, chapitre 1, les versets 9 et 10. Avant la chute, tout était en harmonie sur la terre. L'homme était en harmonie avec les autres créatures. Les animaux vivaient paisiblement, l'un à côté de l'autre, et se nourrissaient d'herbes et de plantes. Puis un jour, Adam et Ève ont tombé. Ils ont décidé de vivre indépendamment de Dieu et de prendre leurs propres décisions. Depuis, la terre est sous la puissance de Satan, et il n'y a plus d'harmonie. Nous n'y voyons que violence et destruction. Le plan éternel de Dieu est de réunir de nouveau toutes choses en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu non seulement pour racheter des pécheurs perdus, mais aussi pour racheter la création. C'est ce que nous pouvons lire dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Il unit ceux qui viennent à lui dans son corps, qui est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des véritables croyants, et non une grosse institution humaine. Un jour, il reviendra chercher son Église et il donnera un corps glorifié à tous les croyants et il ressuscitera ceux qui sont morts. Ultimement, tous les pécheurs seront condamnés et Dieu construira de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour son peuple. La création sera ainsi rachetée. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 21 et 22. Ceux qui auront cru vivront éternellement en harmonie avec leur Dieu créateur. Mes amis, votre seul espoir est de revenir à votre créateur. Dieu vous invite à le reprendre comme votre Dieu personnel. Son Fils a donné sa vie en rançon pour vous, de sorte qu'il vous pardonne et vous sauve gratuitement. Vous pouvez le faire maintenant. Il est prêt à agir dans votre vie en tant que Sauveur et Seigneur. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 1, les versets 4 à 6.
Merci beaucoup, Régent. On a bien vu aujourd'hui comment la foi doit se manifester dans notre vie. C'est dans notre comportement, dans notre obéissance à la parole de Dieu. J'aime tellement l'exemple de Pierre, qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur l'ordre de Jésus, même si ça semblait humainement impossible de prendre du poisson à l'endroit où Jésus lui a dit de jeter le filet, Pierre a obéi et il a pris un grand nombre de poissons. Mes amis, parfois le Seigneur nous demande de faire des choses qui semblent impossibles à faire. Mais c'est tellement encourageant de voir les résultats quand on lui obéit. Il y a quelques années, deux couples de croyants étaient dans la Gaspésie en vacances. Durant la semaine, ils ont essayé de trouver une église évangélique où ils pourraient aller le dimanche suivant, mais ils n'en ont pas trouvé. C'est alors que Dieu a mis dans le cœur d'un de ses croyants l'urgence d'y retourner avec d'autres croyants pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut aux Gaspésiens. Ils y sont allés l'été suivant avec une cinquantaine de chrétiens. Toute la semaine, ils ont présenté l'Évangile à tous ceux qui voulaient bien l'entendre et ils les ont invités à un déjeuner de l'espoir qui a eu lieu à la salle des Chevaliers de Colomb le samedi matin. De nombreux Gaspésiens se sont présentés à ce déjeuner où ils ont entendu le témoignage d'une personne dont la vie avait été transformée par la foi en Jésus-Christ. Et plusieurs ont fait profession de foi ce matin-là, c'est-à-dire qu'ils ont placé leur confiance en Jésus seul pour recevoir le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Tout ce que ça a pris, c'était des gens qui ont fait des pas de foi, des pas d'obéissance. Les pas d'obéissance d'un croyant et de ceux qui sont joints à lui, et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Gloire à Dieu! On a vu aussi aujourd'hui que c'est l'amour qui nous fait agir, de manière à ce qu'on ne trouve pas nos œuvres pénibles. Régent a mentionné que c'est merveilleux quand on fait un travail qu'on aime pour une personne qu'on aime. Personnellement, il n'y a personne que j'aime plus que le Seigneur, mon Sauveur merveilleux. Alors quand il me montre que j'ai un travail à faire, c'est l'amour qui me motive. Et en troisième lieu, bien, on a vu aujourd'hui qu'il n'y a pas de meilleur médicament que l'espoir. Pas de tonique plus efficace que l'attente des jours meilleurs dans l'avenir. Mon ami, as-tu cette espérance? As-tu la certitude que le jour où tu mourras, tu iras dans la présence de Dieu pour l'éternité? Sinon, il est important que tu saches que le seul espoir, c'est Jésus. C'est lui qui a quitté le ciel, là où il était si bien avec son Père, pour venir sur cette terre afin de subir la condamnation qu'on mérite tous pour nos péchés. Mon ami, c'est par amour pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est par amour pour moi aussi. Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est le seul moyen par lequel tu peux recevoir le pardon de tes péchés et le cadeau de la vie éternelle? La parole de Dieu dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, mon ami, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Laisse-le prendre toute la place et tu vas passer l'éternité avec lui.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.